De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, cette période où les salles de cinéma sont fermées et pendant laquelle eh bien, les films sont projetés en toute hâte en VOD, en tout cas pour ceux qui sont déjà sortis, eh bien, cette période donne aussi l'occasion à certains distributeurs de sortir des films directement en vidéo à la demande en guise de sortie nationale. C'est le cas pour deux documentaires que nous allons vous présenter. Playing Men du Slovène Matthias Ivanišin qui nous emmène dans le pourtour méditerranéen au contact d'hommes se livrant à des jeux, et Green Boys d'Ariane Doublet qui nous permet de suivre un migrant grand ivoirien et un jeune adolescent normand. Deux documentaires bien différents qu'on prendra le temps de vous recommander. D'autres films qui ont eu leur carrière en salle sont maintenant sur les écrans. C'est le cas de The Lighthouse, des filles du Dr Marsh et de Une vie cachée de Terrence Malick. Lors de sa sortie, on avait fait l'effort d'aller à la rencontre d'un professeur de cinéma qui nous avait parlé du réalisateur américain. On rediffusera en partie cette interview. Et puis côté patrimoine, eh bien la sortie DVD Blu-ray dans une nouvelle copie de Un château en enfer de Sidney Pollack nous a beaucoup intéressés. Mais on commence cette émission avec le documentaire Green Boys.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Non, ici.
Pendant l'été, ça ressemble comme en Afrique.
Ton voyage, il a duré combien de temps?
Fait au moins 2 ans.
2 ans?
2 ans, oui, à peu près 2 ans.
Pour d'un pays en autre, j'aurais pas pensé.
Dans la ville du Havre, une association nommée Les Lits Solidaires propose de faire héberger de jeunes migrants chez les familles normandes. Depuis que le délit de solidarité, qui consistait, on le rappelle, à punir les personnes qui venaient en aide aux migrants, a été aboli, l'État français ne prend pas forcément davantage en charge les mineurs isolés qui arrivent en France de façon clandestine. Les Lits Solidaires tentent donc de reloger ces personnes pour leur éviter de finir à la rue. La cinéaste Ariane Doublet, très engagée, fait partie de ce collectif et c'est ainsi qu'elle a rencontré Alassane, un jeune Guinéen de 17 ans qui a connu un périple long de 2 ans avant d'arriver en France, passant par la prison, par les camps de rétention et la périlleuse tristement célèbre traversée de la Méditerranée. Alassane s'est lié d'amitié avec un jeune garçon, Luca, qui est le fils du couple qui l'héberge. Le temps d'un été, Ariane Doublet suit le duo dans leur exploration de la nature, dans leur construction de leur cabane et dans la découverte mutuelle qu'ils font de l'autre.
Donc là, la première pierre. Bonjour.
Ah mais ça avance.
C'est plus encourageant à deux que tout seul.
Comment seront Benilaku Kenyali?
T'es sûr qu'il n'y a pas de diable?
Ah non, il n'y a pas de diable ici, ça n'existe pas.
Qui t'a dit ça?
Bah, ça n'existe pas, les diables, j'en ai jamais eu.
Le film est construit autour d'une succession de dialogues entre les deux garçons. Ils évoquent l'Afrique, le voyage de Alassane, bien sûr, pour arriver en France, mais ils parlent aussi de la nature, de leurs croyances, de musique, de foot. L'altérité, la découverte de l'autre sont au cœur du film et tout se déroule en pleine nature normande, une nature qui s'avère être le 3e personnage de ce documentaire. Et c'est véritablement la force de ce film, malgré que Alassane nous raconte les épreuves qu'il a traversées avec l'administration française. On ne verra jamais les bureaux, les centres de rétention, les tribunaux. Le documentaire reste dans la forêt et même précisément reste dans ce vallon normand qui donne sur la mer et dans lequel se côtoient renards, lapins et buses. De même, pour mieux souligner l'universalité de leur amitié, la cinéaste demeure fixée sur le duo formé par Alassane et par Luca, dont les parents resteront toujours hors champ.
Il va falloir aussi que tu prennes des décisions. Est-ce que tu restes ici? Est-ce que tu repars là-bas avec ton savoir? Ça va être une question qui va arriver.
Je voulais être quelqu'un qui est indépendant.
C'est un très joli documentaire conçu comme une parenthèse enchantée qui nous reconnecterait à notre enfance. Un très joli documentaire qui sort directement cette semaine en VOD.
Vivre maintenant comme les autres, c'est ça que moi je veux.
Green Boys est disponible en VOD depuis le 6 mai, sorti en décembre dernier de Lighthouse. L'histoire de deux gardiens de phare était disponible un peu avant. Toujours confiné, Manu nous en parle.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors en 2016, Robert Eggers s'était fait remarquer avec The Witch, premier long métrage fantastique aux inclinaisons féministes qui frappa surtout par son esthétique somptueuse mais désincarnée, évoquant aussi bien la peinture flamande que celle des paysagistes anglais du 19e siècle. En dépit des qualités plastiques indéniables et d'un ton singulier, The Witch ne m'avait pas convaincu, me laissant à distance de cette fable sur la sorcellerie. Alors en surface, The Lighthouse a tout pour irriter le cinéphile méfiant d'une certaine, on va dire, post-modernité, déjà vieillotte depuis 50 ans. Format carré de l'écran, noir et blanc, réminiscence expressionniste, jeu des comédiens volontairement expansifs en hommage aux muets, récit minimaliste bardé de références à tous les plans, musique atonale expérimentale et multiplication des décadrages et angles bizarres d'une caméra très présente. Alors rien que ça, c'est cette volonté de se démarquer des autres, particulièrement au sein du cinéma de genre, ressemble à un parcours de croix épuisant et pénible, proche de la souffrance. Épuisant, le film l'est assurément. On en sort lessivé, fatigué et déboussolé par ce trop-plein visuel et sonore. Pénible, non, car contre toute attente, The Lighthouse est vraiment un film passionnant et inquiétant. Inspiré du folklore marin et de l'univers des écrits d'Herman Melville, l'ombre de Moby Dick est constamment présent, le récit suit le parcours initiatique du jeune Ephraim Winslow, forcé de cohabiter avec Thomas Wake, archétype presque comique du vieux loup de mer, tel qu'on se le représente dans l'inconscient collectif, ou même dans les petits romans, je dirais même pour les enfants en fait, dans un phare isolé au bout des mers. La tension monte entre l'élève et le maître, et la folie s'installe progressivement, tandis que des phénomènes étranges font leur apparition.
What? What?
Alors produit par A24, les concurrents directs de Blumhouse, The Lighthouse n'est pas à proprement un film d'horreur qui observerait le genre de haut en se pinçant le nez, histoire de se la raconter et de dire « Vous voyez, je fais de l'art ». Non, il s'agit de bien plus que cela, d'un millefeuille nourri de références hétéroclites convoquant aussi bien le théâtre de l'absurde, on pense souvent à Samuel Beckett, la mythologie gréco-latine, les écrits terrifiants de Lovecraft, le cinéma muet de Murnau, jusqu'aux expérimentations de Roll Ruiz et de Guy Madin. Alors cet étalage de culture officielle pourrait s'avérer prétentieuse, mais mettre le spectateur aussi dans une position de retrait, le contraire se produit. Le film de Eggers se révèle totalement immersif, pour peu que l'on veuille bien adhérer à cet étrange voyage au bout de la mort, peuplé d'apparitions effrayantes, de logorées verbales à la poésie nue. Le film joue sur une ambivalence constante entre l'affrontement psychologique et physique des deux marins sombrant progressivement dans l'irrationnel et l'incursion d'un fantastique littéraire matérialisant quelques visions monstrueuses servies par des effets spéciaux impressionnants. Alors si vous en avez assez des films de genre propres et dénués d'ambition, The Lighthouse est l'antidote parfait, un diamant brut qui vous embarque dans un récit picaresque, drôle et terrifiant, perdu au fond des mers, au cœur d'un phare de la désolation équivalent maritime des maisons hantées. Alors dans ce lieu de perdition, deux corps en pleine transe s'affrontent, se heurtent, se déchirent, s'éructent, tout en picolant d'ailleurs sans arrêt, provoquant au spectateur un effet d'hallucination sidérante. En roue libre, agaçant et impressionnant à la fois, Robert Pattinson et Willem Dafoe doivent beaucoup à la réussite du film, à son adhésion ou à son rejet. Alors pour ma part, je valide pour ce film d'ailleurs, qui sort actuellement en VOD.
Voilà un film qui est en VOD depuis le 6 mai. Il a conquis 220 000 spectateurs en salle lors de sa sortie. C'est Une vie cachée de Terrence Malick. Nous en avions abondamment parlé en accueillant à notre micro Johan Hervé, un professeur de cinéma qui donne des cours sur Terrence Malick. On rediffuse en la réduisant cette interview.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Présenté à Cannes cette année, mais reparti bredouille de la croisette, Une vie cachée de Terrence Malick a été plutôt bien accueillie. Dans la salle cannoise, il a flotté quelque chose qui ressemble à un silence signifiant. Malgré le générique qui est tombé, on est encore dans le film, ou déjà plus dans le film, mais dans ce qu'il a pu révéler en nous et les questions qu'il a posées. Disons-le tout de suite, ceux qui connaissent Malick retrouveront la patte Malick, un cinéaste reconnaissable entre tous par son souci de la lumière, du cadre, serré quand il y a des personnages, ouvert à l'extrême quand il s'agit de paysages, et bien sûr cette voix off qui permet de marquer l'intériorité du personnage. Alors j'aurais pu dire tout le bien que je pensais de ce long métrage qui prend son temps, mais j'ai préféré rencontrer un professeur de cinéma qui depuis maintenant 4 ans donne un cours sur Terrence Malick à des élèves de deuxième année en fac de cinéma. Il s'agit de Yann Hervé et comme il ne pouvait bien pas venir à nous, je suis allé à sa rencontre. Il s'est intéressé à Terrence Malick depuis The Tree of Life et il nous raconte.
C'est de façon complètement hasardeuse en fait. J'ai découvert The Tree of Life au Festival de Cannes en 2011. Et j'ai eu le sentiment de découvrir quelque chose de complètement novateur, sans trop savoir ce que j'avais en face des yeux, voilà. Donc il y a eu le désir d'en savoir un petit peu plus et donc de commencer à faire un travail de recherche.
Alors dans les premières images de Une vie cachée, on sait qu'on est en face d'un Malick.
Sur l'aspect formel du film, c'est sûr qu'il y a une nouvelle fois ce qu'on peut appeler une patte malickienne, une esthétique assez forte qu'on remarque. Et ça s'explique parce que depuis The Tree of Life, Terrence Malick a finalement érigé un dogme cinématographique, un dogme on va dire visuel, assez contraignant et qu'on retrouve dans tous les films depuis The Tree of Life. Pour donner deux, trois exemples, c'est l'utilisation d'une caméra systématiquement portée en steadicam, l'utilisation d'objectifs grand angle, c'est-à-dire qui ne dépassent pas le 28 mm, ce qui fait qu'on a des plans qui sont très ouverts parce qu'il veut capter un maximum de choses. Donc ça, c'était pour les similitudes. La différence, c'est peut-être que à partir de Tree of Life et jusqu'à Song to Song, on avait une espèce d'épure au niveau de la narration qui a pu fortement déconcerter et les spectateurs et la critique, et qu'on ne retrouve pas ici. Il est revenu à une narration beaucoup plus simple et pour ainsi dire linéaire.
Une vie cachée met en scène un refus catégorique, celui d'un paysan qui, avant la guerre dans les alpages autrichiens, refuse de rejoindre les troupes hitlériennes pour des raisons éthiques. Est-ce étonnant que Terrence Malick s'intéresse à un tel sujet? Selon Johan Hervé, il suffit de repenser à la désobéissance civile de David Thoreau.
Absolument pas, parce que la vie de ce paysan là qui s'appelle Franz Jägerstätter l'intéresse parce que, et ça, c'est un peu mon hypothèse, ça rejoint l'histoire d'un philosophe transcendantaliste du 19e siècle qui a eu en gros à vivre la même chose, c'est-à-dire refuser de payer un impôt. À l'époque, c'était un impôt qui était pro-esclavage, on peut dire pour l'esclavagisme. Le philosophe qui s'appelle Thoreau a refusé de le payer et a été emprisonné. Donc, c'est un thème qui est fort chez Malick parce que c'est cette idée qu'au bout d'un moment, l'individu peut, en son âme et conscience, dire totalement non et à aucun moment essayer de rebrousser chemin. On le voit dans ce film-là, tout le monde essaye de le convaincre. Il s'agit finalement de signer qu'un papier qui n'a finalement aucune viabilité, on va dire, d'un point de vue des idées du paysan, de Franz Jägerstätter. Mais lui s'y refuse parce que c'est sa conscience qui serait, on va dire, mise à mal si jamais il signait ce papier. Et c'est ça qui est intéressant dans le cinéma de Malick et qu'on retrouve depuis The Tree of Life aussi, c'est cette idée que finalement, systématiquement, les personnages qui sont portés à l'écran sont des personnages dont on essaye de nous montrer l'intériorité, la conscience, à travers un ensemble de procédés plus ou moins complexes, en particulier l'utilisation des voix off. Et c'est ça qu'on a ici, simplement.
Encore une fois, cette intériorité apportée par une caméra à hauteur d'homme et une voix off est mise en relation, contrebalancée avec la nature, des séquences de nature en elle-même, sans humain, l'occasion pour Johan Hervé de nous soumettre une seconde hypothèse.
C'est une des spécificités aussi de l'esthétique du cinéma de Malick, c'est ce qu'on a pu appeler tout simplement des plans de nature, dans lesquels soit ce sont des paysages qui sont montrés vierges de toute présence humaine, soit aussi des plans d'animaux. Voilà, on voit des animaux qui sont là toujours à proximité des protagonistes, qui n'ont aucune fonction narrative première. Et alors, pourquoi est-ce que Malick fait ça? Tout simplement, ça sera encore une fois mon hypothèse, c'est-à-dire que cette nature-là, il essaye de montrer qu'elle est toujours le signe d'autre chose, en fait. Que les êtres humains se sont un peu repliés sur eux-mêmes culturellement. Ils ont oublié qu'ils faisaient partie d'un tout qu'est cette nature. Et il a besoin de nous montrer que cette nature, elle est là et qu'elle est le signe aussi d'autre chose. Et cette autre chose, à mon avis, c'est un signe profondément divin. C'est-à-dire que toute chose participe de la création divine et est là à titre de création divine.
I had a dream. I thought that we could build our nest high up.
and the trees. Fly away like birds to the mountains.
Alors, les films de Malick ont eu une fortune diverse en salle. Hein. Les derniers ont été de véritables fours compte tenu du casting qui les accompagnait. Même en mettant Christian Bale, Michael Fassbender, Natalie Portman ou Ryan Gosling, cela n'a jamais suffi à dépasser les 80 000 spectateurs en France, contrairement à Tree of Life ou Le Nouveau Monde, qui ont été de beaux succès. Mais peut-être que La Vie Cachée peut intéresser un plus large public avec un film débarrassé de certains tics formels. Ce nouveau film peut-il être consensuel ?
Je pense qu'il peut l'être et je pense aussi que c'est ce que Malick recherche, puisque après le tournage de Song to Song, donc son avant-dernier film, il a dit que son cinéma, il était arrivé à une sorte de paradoxe. Il avait formulé en ces termes « Mon cinéma s'apparente au problème de la quadrature du cercle, en fait, finalement. J'essaie de faire des choses et je vois que ça ne marche pas. » Donc, il a pris un nouveau virage, surtout narratif. Ce qui pouvait déplaire dans ses précédents films, à partir de Tree of Life, c'est peut-être d'avoir cette narration qu'on peut qualifier d'éclatée. C'est-à-dire qu'on nous montrait surtout essentiellement des moments qui pouvaient apparaître décousus les uns des autres. Voilà. Il n'y avait pas véritablement de début, de fin, tout au moins en apparence. Et c'est peut-être cet aspect narratif complexe qui déplaisait aux spectateurs. Là, encore une fois, on a finalement l'avis d'un objecteur de conscience qui est porté à l'écran. Du moment où il a commencé à dire non à Hitler jusqu'au moment fatidique, puisque on le connaît, c'est un personnage qui a historiquement existé, il sera décapité par les nazis. Donc là, on a une narration, si je puis dire, beaucoup plus linéaire. On part bien d'un point A, on va bien à un point B, ce qu'on n'avait pas dans ces derniers films.
Alors on peut apprécier Terrence Malick, mais il y a quand même quelque chose qui agace Johan Hervé, c'est la dimension religieuse qui viendrait un peu trop dans ce dernier film, remplacer la dimension spirituelle qui transpirait auparavant dans la représentation de la nature.
Moi, ça m'agace. Pourquoi ? Parce que finalement, je pense que même si Dieu a toujours été présent dans la plupart des films de Malick, finalement, il était présent de façon secondaire. Voilà. Il était montré à travers la nature, comme on vient de le dire, et non pas pour lui-même. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que Dieu, la religion, sont présents pour eux-mêmes dans tous les films de Malick. Et son prochain film sera consacré à la vie de Jésus. Et on voit comment il va boucler la boucle, si je puis dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il en revient à des idées qu'il avait laissées de côté initialement.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Changement d'univers maintenant, on quitte les Alpes autrichiens pour les États-Unis du 19e siècle avec Les filles du docteur Marsh, un film qu'on n'avait pas chroniqué à sa sortie en salle, on se rattrape pour sa sortie VOD.
This is Cinérama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Je travaille sur un roman, c'est l'histoire de ma vie et de mes sœurs.
Faites court et piquant. Et si le personnage principal est une fille, arrangez-vous pour qu'elle soit mariée à la fin.
Voici Meg, Amy, Beth et Joe.
Je compte bien réussir par moi-même.
Personne ne réussit jamais seul, surtout pas une femme. Tu dois faire un bon mariage.
Mais vous n'êtes pas mariée, tante March.
Oui, mais moi, je suis riche.
Les filles du docteur March de Louisa May Alcott est l'un des plus célèbres romans américains et l'un des rares, également, du 19e siècle, dans lequel les protagonistes ne sont que des femmes, puisque l'on y suit le quotidien de quatre sœurs et de leur mère durant la guerre de sécession aux États-Unis. Greta Gerwig, jeune comédienne que l'on a d'abord connue à travers le cinéma indépendant, est récemment passée à la réalisation avec son film Lady Bird, portrait doux amer d'une adolescente rebelle interprétée par Saoirse Ronan. Saoirse Ronan à qui elle confie à nouveau le premier rôle de son deuxième film, Les filles du docteur March. À noter que ce roman a été de nombreuses fois adapté au cinéma, la première version datant du cinéma muet. Artiste engagée, féministe revendiquée, Greta Gerwig tente avec cette nouvelle adaptation de dépoussiérer le roman initial et de célébrer de façon très moderne la féminité et la sororité.
Une nouvelle pièce de Mademoiselle Jo March.
Les femmes ont un cerveau et une âme, pas seulement un cœur. Je veux être célèbre ou rien. Et elles sont ambitieuses et talentueuses, pas uniquement belles.
Certaines natures sont trop fières pour s'incliner.
Pendant 10 ans, donc, nous suivons cette fratrie de femmes dans laquelle chacune est vertueuse, belle, mais également artiste et surtout farouchement indépendante. Le film se concentre notamment sur les difficultés que rencontre Jo, aspirante écrivain pour se faire éditer à une époque où cette profession est presque exclusivement masculine. Mais l'obligation de faire un bon mariage demeure une contrainte inévitable pour ses 4 sœurs et l'arrivée dans leur vie d'un jeune homme aussi riche que séduisant va jeter le trouble parmi elles.
J'ai la conviction sincère que les femmes, elles... Les femmes ont une âme, elles ont un cerveau, en plus d'avoir un cœur. Elles ont de l'ambition et elles ont du talent, en plus de leur beauté. Et moi, j'en ai assez qu'on puisse prétendre que la seule raison d'être d'une femme, c'est l'amour. J'en ai par-dessus la tête. Mais je me sens tellement seule.
Autour de la comédienne Saoirse Ronan, donc, on retrouve Florence Plug, que l'on avait récemment vue dans Midsommar, dans le rôle de Amy, Emma Watson également, que personnellement je trouve toujours aussi caricaturale, quel que soit le rôle qu'elle joue, et le désormais très convoité Timothée Chalamet, qui interprète leur prétendant. Alors le film déborde de bonnes intentions, de volonté de moderniser cette œuvre, mais malgré le rythme certain qui est insufflé ici, et malgré une mise en scène inutilement complexe qui multiplie les allers-retours entre différentes époques, Greta Gerwig ne peut modifier l'intrigue principale dans le sens où les filles du Dr March parlent quand même de rivalité entre 4 sœurs qui se disputent les faveurs du même homme riche, ce qui, on en conviendra, n'est pas très moderne. Petite consolation tout de même, la lumière est splendide et en se frottant au film d'époque, Greta Gerwig démontre une fois de plus son talent de cinéaste.
Bon, alors elle épouse qui ?
Les filles du Dr March, un film disponible en vidéo à la demande sur plusieurs plateformes. Deuxième sortie VOD exclusive pour la France dont nous allons parler dans cette émission, le documentaire Playing Men.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Playing Men du réalisateur slovène Matthias Ivanišin est un voyage au premier abord déroutant dans une Europe méditerranéenne peuplée exclusivement d'hommes. Le réalisateur s'y intéresse sous l'angle du jeu. Il nous emmène dans différents pays, nous confronte alors à des us et coutumes dont on n'imaginait pas forcément l'existence. Le plus étrange tout de même dans ce périple, c'est que le spectateur sera bien loin de comprendre les règles des jeux qui lui sont exposés, même s'il y a parfois quelques efforts. On a une sorte de tournoi de lutte qui se joue dans un stade où une flopée d'hommes torse nu et ruisselant de sueur se livre à un combat à main nue, mais qui peut s'achever par une main dans le short. Tout cela devant une foule attentive et fascinée. On a un prêtre dans un village de Sicile qui nous explique avec aplomb les règles sommaires d'un jeu ancestral qui consiste à lâcher du haut du village un fromage afin qu'il dévale les ruelles, quitte à rencontrer du monde sur son passage. Puis, on a encore plus abstrait avec un jeu de Shifumi à la puissance mathématique dont un des protagonistes jure qu'il est plus compliqué que les échecs et que des parties s'achèvent après épuisement au bout de 12 heures. On ose y croire. Mais pourtant, tout cela semble vrai, même si le documentaire prend des détours comiques et réflexifs insoupçonnés. Le réalisateur nous plonge avec ses hommes de tous âges, épris par leur activité ludique, mais il se met également en scène de manière directe et indirecte pour nous indiquer qu'il est lui-même perdu par son sujet. On ne s'en formalise pas, le cinéma c'est aussi une part de jeu quand la narration s'emploie à ne plus être linéaire. D'autres récits vont venir ponctuer ce documentaire qui saura mêler le patrimoine à la grande histoire du sport avec ce qu'un jeu comme le tennis a soulevé d'émotion et de joie dans un petit pays comme la Croatie. Une longue séquence admirablement orchestrée racontant l'histoire d'un joueur porté par un pays. Évidemment, Playing Men, qui se termine sur le refrain d'un vieux western, peut dérouter, mais il a l'avantage d'être un voyage avec juste ce qu'il faut de mélancolie dans l'histoire des hommes, ce qui les lie, les anime, les oppose ou les distrait au travers du jeu. Le film est en VOD depuis le 6 mai sur la plateforme de distributeur Shellac et peut-être d'autres plateformes. On termine cette émission par une édition Blu-ray, celle d'un film de 1969, Un château en enfer de Sidney Pollack, où des GI réfugiés dans un château résistent à l'envahisseur allemand.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Il était une fois 8 hommes de l'armée américaine, harassés, blessés, moulus, qui arrivèrent à un château en Belgique. Mais cela ne saurait être un conte gothique, car cela se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Avant de devenir à l'orée des années 80 un cinéaste consensuel enchaînant les succès publics avec Tutsi et Out of Africa, Sidney Pollack fut, les deux décennies précédentes, un auteur singulier et important, quelque peu oublié aujourd'hui. Alors, dès son premier long métrage, The Slender Thread, le style du cinéaste, encore hésitant, s'empare de sujets forts, déclinant des thématiques sociales et politiques dans l'air du temps. Mais la forme très classique ne laisse pas encore présager la puissance de ses films à venir, à la fois inscrits dans un genre précis et un esprit européen, où le cinéaste va libérer ses audaces picturales, son goût pour l'abstraction et ses idées subversives, proposant une vision personnelle et atypique du monde. Cette dimension frappe particulièrement dans Un château en enfer, sans doute son film le plus étrange. Dès le générique, une voix étrange, narrée par l'un des protagonistes, le capitaine Beckman, romancier et poète, embarque le spectateur dans un songe, une rêverie multipliant les digressions. Le film commence par « Il était une fois », comme dans un conte, précisant qu'il ne s'agit d'ailleurs pas d'un conte gothique, puisque le film se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. L'ironie de cette introduction ne fait qu'accroître l'impression d'être doucement attiré à l'intérieur d'un film fantastique peuplé de visions surréalistes. Un groupe de 7 soldats américains, commandé par le major Falconer, se réfugie dans un château isolé, loin des combats, épargné de l'horreur qui frappe un peu partout en Europe. Dans cet endroit luxuriant et étrangement paisible habitent un aristocrate, le comte Henri Texier, et sa femme, deux silhouettes anachroniques échappées d'un univers littéraire gothique du 19e siècle. Ils vivent en autarcie, inquiets pour la sauvegarde des œuvres d'art qui jonchent les pièces fastueuses. Fasciné par les lieux, imprégné, voire même vampirisé par l'atmosphère à la fois rassurante et étouffante, Falconer, d'ailleurs superbement interprété par Burt Lancaster, qui est aussi coproducteur du film, décide d'investir les lieux, d'en faire une sorte de forteresse contre la vie de son second, le capitaine Beckman.
On nous envoie ici pour prendre la relève. Mais on ne trouve personne à relever. Alors nous allons nous terrer, comme de vrais soldats. Je veux que les terrasses soient minées ainsi que les jardins.
Commandant Falconer, Maldoren ne doit pas devenir un champ de bataille.
Non, pas un champ de bataille. Un îlot de résistance.
Le temps se retrouve suspendu, laissant à loisir les soldats de vaquer à des occupations diverses. Certains partent en virée dans le bordel local, Beckman entreprend l'écriture d'un roman et Falconer séduit, à la demande du comte, sa femme. L'oisiveté gagne du terrain, plongeant les personnages dans une sorte d'univers parallèle, loin de la violence. Ils errent dans les couloirs, engagent des discussions sur le sexe, l'art et la guerre, dégustent des bonnes bouteilles. Happés par cette existence vaporeuse, ils prennent conscience de l'absurdité de la guerre. Ils ne semblent pas appartenir à leur époque, épousant plutôt les interrogations de la fin des années 60 en pleine révolution culturelle. L'allusion à l'enlisement des troupes américaines pendant la guerre du Vietnam imprègne le film de Pollack du début à la fin.
À quoi tout ça sert-il ?
Vous ne sauverez rien en l'abandonnant aux Allemands. Si vous leur laissez une chose, il faut tout leur laisser. C'est ce que vous voulez, Beckman ?
Alors, réflexion passionnante sur la préservation de l'art, la vacuité de la guerre, le sens de l'existence, la vanité de l'homme, Un château en enfer dépasse le cadre étriqué du film engagé antimilitariste, ce qu'il est quand même, pour se muer en un pamphlet philosophique quasiment dénué d'action, au risque de décevoir un spectateur autant perturbé que les pauvres troufions coincés dans le château et ses environs. La première étrangeté du film tient à la façon dont Pollack parvient à suspendre le temps, à l'immobiliser, donc dans un espace circonscrit, transformant une production hollywoodienne en un film d'errance en huis clos, comme si la présence magnétique des grandes œuvres d'art, essentiellement des toiles de maître, influait sur la psyché des personnages. Alors parfois alourdi par un scénario théorique, cette curieuse incursion de Pollack au sein du film de guerre détonne par ses partis pris radicaux, sa mise en scène inspirée, multipliant les cadrages insensés, les contre-plongées, les visions irréelles nimbées d'une lumière magnifique, signée d'ailleurs de Henri Descas, chef opérateur célébré pour son travail chez Jean-Pierre Melville. Un château en enfer baigne dans un climat onirique envoûtant, piégeant une galerie de personnages échappés d'un film de guerre classique. Alors cette approche décalée, marquée par les audaces d'une narration libre, rappelant parfois le cinéma d'Alain René, atteint un paroxysme lors de la scène de guerre finale, basculant dans un surnaturel assumé et fascinant. D'autant plus fascinant que le château de Maldoren n'a jamais existé, alors créé de toutes pièces quelque part en Yougoslavie. Le désir de bousculer le cinéma de studio, d'en prendre le contre-pied, est symptomatique de toute une génération de cinéastes américains, à l'instar de Robert Altman et Walter Penn, les yeux rivés vers la nouvelle vague française. Alors tourner entre les chasseurs de scalps et on achève bien les chevaux, Un château en enfer s'avère l'occasion idéale de réévaluer Sidney Pollack, qui réalisera une série de films importants quand même durant les années 70 avec Jeremiah Johnson, Nos plus belles années, Yakuza et Les trois jours du Condor.
Vous savez tout sur ce château, mais vous ne savez pas le garder.
Vous voulez le voir détruit, en ruine.
Vous croyez, Beckman ?
Vous pouvez lire cette chronique de manière encore plus complète sur le site cultureaupoint.com.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma camp !
Ainsi s'achève Cinérama. On revient la semaine prochaine, toujours dans un pays sans salle de cinéma, mais avec des films et quelques-uns qui sortent en exclusivité en vidéo à la demande.
This is Cinérama.